Avec le sommet de Johannesburg qui a pris fin il y a quelques jours, on a encore et beaucoup parlé, évidemment, de réchauffement de la planète. Et quand on parle de réchauffement de la planète, on pense que l'affaire commence à peu près vers le milieu des années 80, 1980. Alors Yves Gingras, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire des sciences à l'Université du Québec à Montréal, qui revient, qui recommence, qui reprend le collier de l'année des chroniques. Yves Gingras, vous allez nous dire, bien sûr, comme historien, que l'histoire du réchauffement de la planète commence il y a bien plus longtemps qu'il y a 10-15 ans.
Oui, et on va s'apercevoir dans cette histoire-là qu'on passe du chaud au froid. On dit que réchauffement de la planète, ensuite on dit que refroidissement de la planète. Mais on peut commencer, comme c'est l'habitude des historiens, à remonter aussi loin qu'on peut.
Oui.
Et en allant pas plus loin que le 17e siècle quand même.
Oui.
Donc en gros, si on regarde les discours de sens commun du 17e jusqu'à peu près la fin du 19e, il y avait cette idée que oui, on pouvait modifier le climat. Et entre autres, on modifiait le climat à l'époque, on pense au 17e et 18e, c'est le développement des États-Unis.
Mm-hmm.
Donc en enlevant les grandes forêts, donc par déforestation et par l'agriculture.
On avait déjà cette idée-là à ce moment-là.
Oui, il y avait une idée très, très claire qu'en Europe, d'ailleurs, en Angleterre, par exemple, on vantait les mérites de l'immigration aux États-Unis en disant que, par exemple, un lieu comme la Virginie était à une latitude comparable à des belles villes d'Italie.
Mm-hmm.
Et il y avait cette idée que le climat, d'ailleurs, le mot « climat », soit dit entre parenthèses, vient du mot grec « climat » qui veut dire « pente, déclinaison ». C'est l'idée que le climat ne dépend que de la latitude.
Exact.
Donc, l'idée au départ, c'est qu'une latitude étant donnée, la température devrait être la même.
Mm-hmm.
Bien sûr, quand on a découvert l'Amérique et surtout quand on l'a colonisé, on s'est aperçu que c'était pas mal plus froid.
Oui.
Mais on s'est dit, plus on va déforester l'Amérique du Nord, plus on va faire de l'agriculture, plus les températures vont être agréables.
Et ce sera une bonne chose.
Et ce sera une très bonne chose. Mm-hmm. Donc, il y avait l'idée du changement du climat qui devait être de moins en moins rigoureux. Thomas Jefferson, dans les années 1780, le fameux président des États-Unis,
mm-hmm.
a même calculé, à partir de ses lectures des Romains et des Grecs, que depuis Jules César jusqu'à nos jours, la température avait augmenté d'environ 1 degré par siècle, grâce à l'agriculture et grâce à la déforestation.
C'est ça. Alors, probablement calcul un peu erroné, parce qu'un degré par siècle, ça ferait 20 degrés en 2000 ans, ce serait beaucoup.
Effectivement.
Alors, il va se produire une chose, bien sûr, c'est que les scientifiques étant ce qu'ils sont, ils inventent des machines, des moyens de mesure, le thermomètre, le baromètre. Et là, on va commencer un petit peu à changer
oui,
le discours parce qu'on va de la science.
La science au sens de la mesure. Et même, pour toujours avoir notre fil conducteur, Thomas Jefferson dit, bon, c'est beau ces choses-là, mais il faudrait mettre sur pied un peu partout, on est en 1770 environ, des observatoires pour mesurer les températures à plusieurs localités, mais de façon continue dans le temps, pour qu'on ait des séries linéaire. Mais ces discours-là, de dire oui, c'est important, ça va quand même prendre un siècle à s'institutionnaliser. On tombe donc dans les années 1850 avec la création un peu partout en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, de sociétés météorologiques et de création d'institutions météorologiques qui commencent à faire des séries à longue durée.
Faire des mesures. D'ailleurs, on dit souvent, depuis qu'on a des mesures, environ depuis le milieu du 19e siècle.
De façon suivie, bien sûr. On peut aussi lire des mesures chez les textes romains, comme Jefferson le faisait, mais des mesures précises et suivies. Et ça supposait, d'ailleurs, d'abord, la mise au point d'instruments. Il faut rappeler que le thermomètre de Fahrenheit dans les années 1720, c'est le début de la standardisation. Parce que c'est beau dire que le thermomètre de Paris marque 20 degrés et celui de Londres marque 20 degrés, mais est-ce que ce sont des thermomètres
qui
calibrés?
La même chose, calibrés?
Donc, la calibration
ça.
Nécessaire. Même chose pour les baromètres. Une fois ça que c'est fait au milieu du 19e, on arrive à la fin du siècle. En 1889, il y a un texte très intéressant écrit par un savant américain qui travaillait au service météorologique de l'armée qui s'intitulait à l'époque en anglais « Is our climate changing? »
Est-ce que notre climat est en train de changer?
Oui. Et donc, il
1889.
Fait le 1889. Il fait le point et il se dit « On a 90 années de séries de mesures. » Et effectivement, contrairement à la croyance ancestrale que la déforestation fera augmenter la température moyenne, on ne voit pas de fluctuation dans une direction ou dans une autre. Donc effectivement, il y a des hivers plus froids, mais il y a aussi des hivers plus chauds. Donc,
vous parlez
diagnostic
de
1889, le climat ne change pas.
Alors là, vous parlez de mesure de la température. Il y a aussi un nouveau phénomène qui va apparaître. On va donner de l'importance au gaz carbonique, à la vapeur d'eau dans l'atmosphère, à ce qu'on appelle aujourd'hui les gaz à effet de serre. Mais on commence à en parler de ces gaz-là et de leur rôle en 1860.
Oui, en gros. Donc, au milieu du 19e siècle, on pense, un qui joue un rôle important là-dedans, c'est le scientifique britannique John Tyndall, qui s'est mis à mesurer l'absorption du rayonnement on dit aujourd'hui de rayonnement électromagnétique, mais donc de rayonnement infrarouge, par divers gaz. Et c'est là qu'il a découvert, par exemple, que ce qui est une évidence pour nous, que la vapeur d'eau absorbe beaucoup de rayonnement infrarouge. Et il dit donc, pour la météorologie, la présence de vapeur d'eau est le facteur le plus important. Mm-hmm. Et il découvre aussi que d'autres gaz, comme le CO2, mm-hmm. l'azote, absorbent de l'infrarouge.
Et quand on dit CO2, on va parler d'un autre savant bientôt, j'accélère un petit peu, mais il y a un certain Arrhenius.
Oui, c'est Arrhenius au tout début du siècle, qui lui aussi va faire...
Du 20e siècle.
Du 20e siècle, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs de chimie en 1913, et qui va dire que c'est le CO2 qui est le facteur le plus important, et que c'est lui et sa production industrielle de plus en plus grande qui occasionne le réchauffement de la planète. Donc, lui parle vraiment de réchauffement, mais il dit c'est une très bonne chose. La planète va être plus chaude, la température va être plus constante. Au lieu d'aller de moins 40, comme on vit, nous, à plus 30, on aura des choses beaucoup plus tempérées. Mm-hmm. Donc, c'est une bonne chose. Donc, lui, il sait qu'il y a une corrélation. Mais dans les années 20, on remesure, on dit, bon, même s'il y a l'absorption de CO2, il peut être réabsorbé par l'océan. Donc, le débat sur les puits de carbone existait à cette époque-là.
Et il y a un grand monsieur alors, qui arrive, qui va changer un peu le cours des choses, c'est Guy Stewart Callendar, qui est vraiment un savant, oui, un scientifique extrêmement important.
Oui, parce qu'il va ramener à l'ordre du jour l'importance.
On est à la fin des années
30. Dans les années 30. Donc
1930.
En gros, de 39 à 60, parce qu'il meurt d'une crise cardiaque, je crois, au début des années 60. Il va, lui, mettre son énergie pour montrer une corrélation précise entre l'accroissement de carbone dans l'atmosphère, dû bien sûr à la production industrielle, et l'augmentation moyenne de température. Et là, les données sont assez précises pour convaincre de plus en plus de monde. Mais attention, encore en 70, la National Science Foundation va publier un rapport synthèse disant qu'il n'y a pas réchauffement de la planète, il y a refroidissement de la planète. Donc, vous voyez, en gros, on a eu des oscillations
entre des discours
qui disaient refroidi, réchauffement. Depuis la fin des années 80, et c'est ce qu'on vit nous,
et aujourd'hui, maintenant,
il y a une entente de plus en plus grande sur il y a clairement un réchauffement. En conclusion, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que c'était le cas au début du siècle, on a de meilleurs instruments. Par exemple, on vient tout juste de mettre dans l'espace la nouvelle génération des satellites Meteosita, mm-hmm. qui permettent pour le continent européen et pour l'Amérique du Nord, donc essentiellement, disons, pour le...
Des mesures extrêmement précises.
Des mesures du bilan énergétique de la planète. Mm-hmm. Parce que mm-hmm. ce qui détermine qu'il y a réchauffement ou non, c'est est-ce que on radie à l'extérieur, donc dans l'espace, plus ou moins qu'on en absorbe.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, plus les mesures sont précises, plus il y a une probabilité qu'il y ait une convergence et donc qu'il y ait un consensus plus grand. La nouveauté aussi, ce n'est pas uniquement les instruments comme les satellites, c'est que tout ce dont on vient de parler dans les années 30, c'est surtout un débat entre scientifiques. Aujourd'hui, la conjoncture est nouvelle. Parler de réchauffement de la planète a des implications politiques majeures.
Considérables, on l'a vu à Johannesburg. Hein?
Exactement. Oui. Et donc, à chaque grand sommet, quelqu'un qui publie dans Nature ou dans Science un article, bien qu'il soit le plus précis, le plus scientifique, s'il dit qu'il n'y a pas de réchauffement de la planète, il risque d'être interprété comme étant partie d'un grand complot. Donc, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a une interaction forte, comme on dit en physique des particules élémentaires, entre la science la plus précise et les décisions politiques, le rôle politique des groupes d'action, des OGN, ce qui fait que c'est rendu très difficile de dire qui a raison et qui a tort, parce que la distance entre la science et le politique diminue. Sans qu'on puisse y perdre grand-chose.
Ce qui est une observation commune dans la bouche de notre historien des sciences préféré, Yves Gingras. Yves Gingras, merci beaucoup.
Un plaisir.